Comme chaque mercredi à 17h30, vous avez rendez-vous avec Lille 1 Info, le magazine consacré à l'université Lille 1. Eh oui, 50 ans déjà que le laser est sorti de l'imagination et des laboratoires et pour servir, j'allais dire, l'humanité. On va en parler avec Antoine Matrillon et Dominique Derosier. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Donc Dominique Derosier, vous êtes un des responsables du CERLA.
Tout à fait, oui.
On peut peut-être préciser CERLA.
CERLA, c'est le Centre d'études et de recherche sur les lasers et leurs applications.
Voilà. Et donc Antoine Matrillon, on vous présente comment ?
Alors moi, je suis chargé de mission patrimoine scientifique à l'Université Lille 1 et également responsable de l'organisation de la fête de la science pour l'université cette année.
Voilà. Donc actuellement, à l'espace culture, il y a une exposition consacrée aux 50 ans du laser. Mmh. Une exposition où on peut voir à la fois un cours théorique sur ce qu'est la lumière, laser, enfin tout ce qui est un petit peu technique, on va dire. Et puis des objets qui sortent de l'histoire, ressortent de l'histoire.
Qui sortent du patrimoine de notre université, effectivement, qui a contribué aussi à la connaissance de la lumière et plus tard à son application la plus connue aujourd'hui, qui est le laser.
Mmh. Alors, c'est vrai que l'université est riche dans la mesure où elle a plus de 100 ans de laboratoire avec des objets, des instruments, tout ce qui a servi, dont on a gardé une partie.
Oui, tout à fait. En fait, donc la faculté des sciences a été créée en 1853. Et depuis cette époque, on a la chance d'avoir pu conserver en partie le matériel issu de la recherche et de l'enseignement. Et c'est l'occasion pour nous, chaque année, d'exposer ce patrimoine qui nous sert de support aussi pour exposer certains concepts scientifiques.
Là, en l'occurrence, pour cette exposition des 50 ans du laser, quels sont les instruments que vous avez présentés, que vous avez mis en scène, j'allais dire ?
Alors en fait, l'exposition est en deux parties. La première partie montre les instruments qui ont servi à comprendre la lumière, ce qu'elle est. Par exemple, on a un très bel instrument qui a servi à l'époque à mesurer la vitesse de la lumière. Celui-ci avait été créé par Foucault, qui ne faisait pas partie de notre université. Mais on a le même instrument qui a servi à l'époque à la première mesure de la vitesse de la lumière.
Alors, ces instruments, ils sont présentés sur des socles, etc. J'ai dit, ils sont inertes. Est-ce qu'on peut imaginer ou comment on peut imaginer qu'ils aient été actifs et comment ils fonctionnent ?
Alors c'est du patrimoine. On doit le conserver. Alors pour le conserver, évidemment, on est obligé de ne pas le faire fonctionner. Mais c'est des instruments qui existent aussi de manière contemporaine, sous une forme plus neuve, et qui pourraient être réutilisés et démontrés aussi pour des raisons pédagogiques, par exemple.
Alors, Dominique Derosier, quand vous voyez ces objets, ces instruments, ces outils, pour vous, ça représente quoi ?
Bon, ça représente une longue histoire et une histoire où l'optique et les lasers sont très présents à Lille, puisque en fait, même si le laser a 50 ans, la présence du laser à Lille, elle date d'un peu plus de 40 ans, donc les premiers travaux, ils ont démarré très très rapidement derrière, et à la fois à Lille 1 et également à Lille 2, puisque en parallèle avec les travaux de recherche qu'ils ont pu être menés à Lille 1 sur les lasers, s'est développé aussi les applications médicales des lasers avec le premier centre d'applications médicales à Lille 2. Et beaucoup de collaborations entre Lille 1 et Lille 2 ont conduit, dans l'exposition du patrimoine, à par exemple montrer un des premiers lasers médicaux qui a été réalisé par Lille 1 et en collaboration avec Lille 2.
Alors, Einstein n'est pas complètement étranger à cette idée de laser.
Je crois que Einstein, il a émis l'idée de base du laser et qu'il a fallu malheureusement attendre à peu près 50 ans, puisque c'était en 1917 que Einstein a mis en évidence ce qu'on appelle l'émission stimulée. L'émission stimulée qui est à la base du laser, puisque l'acronyme laser veut dire amplification de la lumière par émission stimulée.
Mmh. En fait, quand on voit de la lumière, souvent, la lumière habituelle, artificielle, elle est un petit peu diffuse, n'a pas vraiment d'orientation bien précise. Là, le laser rectifie les choses.
Tout à fait. Quelque part, on parle bien souvent d'un photocopieur à photons, le photon étant le grain de lumière le plus petit qu'on puisse imaginer. Photocopieur à photons, ça veut dire qu'on obtient des photons qui sont tous identiques, qui vont tous dans la même direction, qui ont tous la même énergie et qu'on peut utiliser de façon assez fantastique pour découper des métaux, pour vous opérer de l'œil ou bien pour transmettre de l'information à l'autre bout du monde.
Est-ce qu'on imaginait au départ, quand on a conçu les premières machines, les premiers concepts, qu'on pourrait en tirer autant d'applications ?
Alors, quand ça a été découvert, le laser, il y avait une phrase qui disait « c'est une solution qui cherche un problème ». Et en fait, on s'est aperçu que dans les 50 ans qui ont suivi, le laser en question, il a solutionné un nombre de problèmes fantastiques. Mais cependant, l'inventeur du laser, qui est Theodor Mehmann, il avait déjà compris le formidable impact que pouvait avoir le laser dans la vie de tous les jours. Il parlait des applications industrielles, de la découpe, des applications médicales, de son importance dans le domaine des télécoms. Donc déjà, les scientifiques de l'époque avaient sans doute compris beaucoup de choses. Mais il a fallu à peu près 50 ans pour que le laser trouve une importance aussi considérable qu'il l'a à l'heure actuelle.
Il y a 50 ans, donc, on a présenté peut-être le premier laser et ses premières applications. Combien il a fallu de temps avant pour arriver à ça ?
À peu près, Albert Einstein, c'est 1917. Mmh. Après, il y a toute une histoire, puisque Albert Einstein a découvert l'émission stimulée. Et il a fallu attendre la découverte du premier qu'on appelle maser, qui était l'équivalent, mais dans le domaine micro-ondes, de M. Kessler, qui a proposé l'inversion de population, pour qu'en 1950-1957, Tuns et Chaleau proposent l'idée du laser, qui, à partir de là... c'est une course-poursuite d'une série de laboratoires dans le monde qui a conduit Theodor Mehmann à fabriquer le premier laser en 1960, en mai 1960, et qui a été suivi très rapidement par le premier laser hélium-néon, qui est sans doute celui que l'on a tous connu sur nos bancs d'école, qui est le petit pointeur rouge, qui a été découvert quelques mois après. Mm-hmm.
Donc c'est vrai que pour le laser, quand on dit c'est de la lumière, oui, pour cette lumière, il faut du gaz quand même.
Alors il faut un support matériel, donc c'est pas forcément... Albert Einstein a montré que la matière était capable de, si elle était correctement excitée, de photocopier les photons. La matière d'une façon générale. Alors cette matière, ça peut être un gaz. Le premier laser, c'était un laser à rubis, donc c'était un cristal.
D'accord.
Le deuxième laser, c'était l'hélium néon, c'était un gaz. Et maintenant, on fait des lasers où on a des solides, des liquides, des gaz, et même des plasmas, ou même des choses comme ça. Il faut de la matière.
Donc cette matière, effectivement, elle est exploitée d'une certaine manière, elle est paramétrée, elle est mise dans un contexte, et de tout cela, la lumière naît.
Oui, disons qu'une lumière bien dirigée, bien organisée, apparaît dans ce genre de système.
Alors ce qui est très étonnant sur les propriétés de ce rayon lumineux, c'est sa précision, sa capacité à couvrir de longues distances et à être relativement stable, on va dire très stable.
Oui, c'est la propriété du laser principal, c'est sa stabilité dans tous les sens du terme. C'est stable dans le temps, c'est stable dans l'espace. C'est stable en couleur, c'est sa stabilité qui fait l'application principale des lasers, oui.
Alors quand vous dites couleur, pour avoir plusieurs couleurs, il faut plusieurs types de lasers.
Alors au départ, c'est bien souvent plusieurs lasers qui donnaient plusieurs couleurs. Bon, la technologie a évolué, les connaissances dans le domaine et la recherche dans le domaine a également beaucoup progressé. Maintenant, on est capable de faire des lasers blancs, c'est-à-dire qu'ils sont capables quasiment de couvrir tout le spectre visible, donc toutes les couleurs allant du violet jusqu'au rouge.
Alors, on connaît des choses aussi intéressantes en technologie comme les LED.
Les LED,
oui. Est-ce que c'est... ces lumières, là, au départ, elles sont uniques en termes de couleur. La LED, c'est une couleur, mais ça commence à évoluer.
La LED, c'est un un spectre qui est beaucoup plus étroit que la lumière naturelle, mais c'est encore mille fois plus large que la lumière émise par un laser. Donc le spectre d'un laser est beaucoup, beaucoup plus précis au niveau couleur que la lumière d'une LED, par exemple.
D'accord. Si on parle de consommation, le laser n'entre pas dans des applications d'usage d'éclairage ?
Non, très très peu, non. Je veux dire, la directivité fait que ça peut éclairer un point, mais ça ne va pas éclairer une pièce. Donc, je veux dire, quelque part, ce n'est pas son application principale. Mais il est fortement utilisé en bout de fibre, par exemple, pour éclairer des objets très petits. Ça arrive.
Alors, c'est vrai qu'un rayon laser peut traverser l'Atlantique ?
Oui, tout à fait, il le fait tous les jours.
Tous les jours.
Pas actuellement, la j'espère que si des Américains nous écoutent à l'heure actuelle, c'est parce qu'un laser a traversé l'Atlantique à l'aide d'une fibre optique qui est posée au fond de l'océan et qui permet aux Américains de nous écouter quasiment en temps réel.
Qu'est-ce qu'il faut pour le transport de cette lumière ? Est-ce qu'on peut traverser, enfin, est-ce que le laser, le rayon, peut traverser le vide ou d'autres choses ?
Alors, a priori, la lumière se propage en ligne droite et elle traverse le vide sans aucun problème. Bon, à partir du moment où il y a de l'air, elle va être ce qu'on appelle absorbée par la matière, sauf que l'air a des fenêtres de transparence qui permet à certaines longueurs d'onde, certaines couleurs, d'aller plus ou moins loin.
Alors, j'ai appris aujourd'hui, en allant voir cette belle exposition, qu'il y avait des couleurs de laser, de lumière, invisibles pour l'homme.
Alors, le spectre traditionnel que l'on a l'habitude de voir, c'est celui que vous voyez quand il pleut et qu'il y a du soleil. Donc, c'est l'arc-en-ciel. L'œil voit toutes les couleurs entre le violet et le rouge, en passant par le vert, le jaune, l'orange. Mais après le rouge, on a une couleur que l'œil n'est plus capable de voir, que nous, on appelle l'infrarouge. Et avant le violet, il y a une autre couleur qu'on n'est pas capable de voir, qu'on appelle l'ultraviolet, pourtant qu'on utilise l'ultraviolet.
À quoi ça sert de transporter des lumières invisibles ?
Alors, l'application du laser, essentiellement, les nombreuses applications des lasers, elles sont différentes, justement, parce que la lumière va interagir de façon différente avec la matière en fonction de sa couleur. Et on a besoin, par exemple, pour des applications médicales, pour opérer l'œil, d'une certaine couleur. Et si on veut opérer l'entrée de l'œil, on aura besoin d'une couleur qui est absorbée directement par la rétine. Si on veut opérer le fond de l'œil, on aura besoin d'une couleur qui traverse la rétine sans la modifier. Donc le réglage du laser, nous, c'est aussi la couleur qui va permettre des applications différentes.
Mais comment on peut maîtriser une couleur qu'on ne voit pas ?
Pour nous, aussi bien qu'une couleur que l'on voit. Parce qu'a priori, la lumière, qu'elle soit visible ou invisible, c'est de l'énergie, donc on est capable, ça chauffe, donc on est capable de la détecter, il y a des appareils qui nous permettent de la visualiser, et on peut l'étudier aussi bien que de la lumière visible.
Ça peut être dangereux finalement d'être attaqué par une lumière invisible mais qui néanmoins existe ?
Oui, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour l'œil, même, je veux dire, pour d'autres, pour la peau, pour autre chose. Les UV, on sait que c'est pas tellement bon pour la peau et on fait des lasers qui émettent dans l'ultraviolet. Donc, c'est vrai que c'est dangereux. Un laser, de la lumière, c'est dangereux. Vous avez tous fait l'expérience de prendre une loupe et de focaliser le soleil sur un bout de papier, ça brûle. Je veux dire, la lumière laser, elle est capable de brûler puisqu'elle est capable de découper quelques centimètres d'acier sans grosse difficulté. Donc, je veux dire, c'est dangereux, la lumière. Oui.
Donc, ça suppose, dans ces applications, dans ces utilisations, qu'on maîtrise complètement le processus et qu'on imagine complètement les conséquences aussi des actes que l'on opère avec cet outil.
Tout à fait, oui. Mais heureusement que l'on maîtrise, que l'on comprend parfaitement, qu'on est capable de mesurer de manière à pouvoir adapter parfaitement la quantité de lumière ou la couleur de la lumière ou l'énergie que l'on apporte bien précisément en fonction du but recherché. Je veux dire, on ne va pas utiliser le même laser chez Renault, découper une aile de voiture et utiliser ce laser, ça sera le même type de laser, mais les paramètres ne seront pas les mêmes pour vous opérer de la cataracte.
Est-ce que la puissance est réglable ou bien est-ce qu'un laser, c'est telle puissance ?
En général, on domine la puissance du laser. Donc ça peut être réglable dans des proportions qui peuvent aller d'une énergie inoffensive jusqu'à la découpe de l'acier. Quoi.
Mmh. Alors, on a une idée des applications actuelles du laser. Est-ce que dans les laboratoires, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore forcément au niveau du grand public sur des applications futures ? Sans dévoiler tous les secrets, hein, bien sûr, de vos laboratoires.
Ben, je pense que non, sans dévoiler les secrets des laboratoires. L'une des problématiques des lasers, c'est justement de développer des nouvelles sources qui couvriront des nouvelles couleurs pour développer des nouvelles applications et aussi des sources qui sont de plus en plus précises. On parle de lasers ultra courts, donc qui sont capables d'émettre une quantité de lumière, une quantité d'énergie pendant une durée qui est le millionième de seconde, donc et même des durées plus faibles maintenant. Et c'est aussi la course à la puissance, de manière à avoir des lasers de plus en plus performants, capables de faire des choses que l'on n'est pas encore capable de faire. Bon, il y a un très très grand projet en France qui est le laser mégajoule qui s'installe, qui est en installation, en cours d'installation sur Bordeaux. L'objectif d'un laser mégajoule, c'est de déclencher la fusion nucléaire, donc une production d'énergie différente de celle envisagée, enfin utilisée actuellement, qui est la fission nucléaire dans les centrales nucléaires françaises.
Mmh. Quelle est la spécificité des laboratoires de la région Nord-Pas-de-Calais ?
Alors nous, on ne va pas faire de fusion nucléaire, donc on est beaucoup plus dans les lasers, je dirais, de faible puissance. Notre spécificité, c'est bon, plutôt les lasers médicaux, par exemple. Les lasers qui vont nous servir à analyser l'atmosphère, détecter les polluants. Les lasers qu'on va utiliser dans le domaine des télécommunications. On est plus dans des domaines où la puissance n'est pas vraiment notre leitmotiv de recherche.
Mm-hmm. Néanmoins, la puissance de frappe du Nord-Pas-de-Calais, c'est peut-être la mise en réseau des professionnels et des gens qui utilisent le laser dans des applications courantes.
Hein. Tout à fait. Et heureusement, enfin, le Nord-Pas-de-Calais est la troisième région française dans l'utilisation industrielle des lasers. Donc il y a énormément d'utilisateurs autour de nous, dans des industries des fois qui peuvent surprendre. Hein. Chez Bonduelle, ils utilisent le laser. On sait très très bien chez Renault, chez Peugeot, chez Toyota, ils utilisent régulièrement le laser. Et à la Crystal Ridark ou à d'autres endroits, je veux dire, le laser, il est vraiment implanté dans quasiment toutes les industries françaises.
À l'Université Lille, on travaille aussi à la mise en correspondance des scientifiques, des laboratoires de recherche et des artistes. Le laser, pour nous, bon, ça peut être aussi le disque, les lumières, des shows lumineux, magnifiques, etc. Est-ce que vous avez des demandes particulières d'artistes qui souhaiteraient développer des projets qui nécessitent des outils qu'ils n'ont pas ?
Non. Pour l'instant, je n'ai pas eu de demande dans ce sens-là, mais c'est vrai que l'une des applications majeures du laser, c'est la lecture des CD ou le gravage des CD et des DVD. Mm-hmm. Donc dans chaque graveur ou dans chaque lecteur de CD et de DVD, vous avez un petit laser. Mm-hmm. Donc on a eu il n'y a pas longtemps le concert de Jean-Michel Jarre aussi, mm-hmm. où je pense qu'il y a une harpe ou un orgue laser. Mm-hmm. Donc c'est vrai, tous les light shows à l'heure actuelle sont bien souvent faits avec des lasers également. Donc le laser est présent dans la vie artistique.
Mmh. Bon, je suppose qu'il y a d'autres domaines qu'on ne connaît pas trop et dont on ne nous parle pas trop. Par exemple, le domaine militaire, ça doit aussi intéresser.
Oui, il y a énormément d'applications dans le domaine militaire. Bon, si vous avez vu les reportages à la télé sur la guerre en Irak, vous savez très bien qu'il y a des pointeurs laser qui permettent aux avions de cibler parfaitement l'endroit où va aller leur missile. Mmh. Donc, je veux dire, le laser, il est des applications, je dirais, civiles, mais il y a des applications militaires également nombreuses. Je veux dire, actuellement, dans tous les avions militaires, il y a au moins 2-3 lasers qui leur permettent de repérer en permanence leur position exacte. Dans les sous-marins nucléaires également, c'est ce qu'on appelle les gyroscopes laser. Le laser, il est vraiment présent dans toutes les applications humaines.
Et même sur les routes.
Et même sur les routes, oui, vous faites référence, je suppose, à ces sacrés radars qui vous détectent la vitesse. Oui, en général, la précision du laser nous permet de mesurer la vitesse de véhicules avec des précisions très très importantes et très rapidement. Donc on est en train de parler de radars qui seraient capables de regarder la vitesse de plusieurs dizaines de véhicules simultanément, oui, ça c'est le laser qui le permet. Oui.
Voilà, donc on a une idée en 50 ans des progrès accomplis, peut-être aussi de ceux qui restent à faire. Qu'est-ce que l'homme a en tiré dans l'avenir? Est-ce qu'il a intérêt à peser sur les laboratoires ou sur la recherche d'une manière générale pour en bénéficier peut-être plus que dans des usages dont il ne maîtrise pas vraiment le destin?
Je pense que la recherche a beaucoup de choses encore à donner dans le domaine du laser et en général de l'optique. On parle beaucoup à l'heure actuelle des nanotechnologies. Et je veux dire, c'est encore une orientation que le laser va sans doute prendre et s'orienter. Je veux dire, le laser, il est indispensable dans le domaine des nanotechnologies et les nanotechnologies permettent également des développements de nouveaux lasers. Donc oui, il faut appuyer la recherche encore dans ce domaine-là.
En quoi le citoyen doit-il ou peut-il être vigilant dans le domaine ?
Vigilant, c'est-à-dire ?
Quelles sont les limites d'exploitation de ce type de technologie souhaitable ? Les limites souhaitables de l'exploitation ?
Oh, vous me posez une question qui est un peu difficile.
Est-ce que vous souhaitez des barrières et dans quel domaine vous souhaiteriez qu'on vous les mette ?
Oui. Je pense que c'est dans le domaine de la... Bon, c'est un domaine très, très particulier. C'est dans le domaine de la génétique où c'est sûr que le laser intervient également. Et les conséquences de l'application d'outils tels que le laser dans le domaine de la génétique, à mon avis, ça mériterait une certaine surveillance.
Voilà. Donc, de l'éthique dans la recherche, ça, c'est forcément des questions qu'on se pose quand même.
Tout à fait, oui. Je veux dire, je pense que le chercheur se pose toujours des questions, même s'il n'entrevoit pas toutes les possibilités que ces recherches vont permettre de réaliser. C'est une notion importante pour le chercheur.
Est-ce qu'une présentation comme celle qu'il y a à l'espace culture actuellement, ça peut être intéressant dans la mesure où un public qui ne connaît pas forcément bien la chose découvre des applications, a des idées par rapport à aussi une réaction par rapport à ces outils?
Je pense que oui, c'est très très intéressant et quelque part c'est les prémices d'une autre action qu'on est en train de mettre en place qui va être ce qu'on appelle la Laser Week, où là nous on va aller non plus, on va pas rester à l'université mais on va essayer de se déplacer vers le public en installant un chapiteau de 600 mètres carrés dans le centre-ville de Lille, place de la République, où là on espère justement montrer comment fonctionne un laser, quels sont les principes de fonctionnement d'un laser, mais également quelles sont toutes les applications qu'il y a derrière un laser, que ça aille de l'industrie lourde, du gravage, du soudage, mais également des applications médicales, des applications dans le domaine des télécoms, des applications dans la police scientifique ou des choses comme ça. Et on va vraiment aller vers le grand public en faisant une exposition. Alors, elle était prévue initialement cette semaine, mais Place de la République, actuellement, elle est souvent occupée par d'autres personnes.
Elle est en travaux.
Oui. Donc, on a reculé la date de l'exposition au 18, 19, 20 et 21 novembre. Mm-hmm. Et notre objectif, c'est d'avoir une approche à la fois pédagogique et ludique et de toucher le plus grand nombre de personnes.
La fête de la science ?
Alors, justement, normalement, cette exposition était faite dans le cadre de la fête de la science, mais comme on ne pouvait pas s'installer Place de la République cette semaine, on a décalé ça au 18, 19, 20 et 21 novembre.
Est-ce que vous imaginez une exposition transportable qui puisse se déplacer, aller dans les lycées ou dans d'autres universités ?
Alors justement, les 50 ans du laser, on conduit beaucoup d'autres laboratoires de recherche et beaucoup d'autres organismes à essayer de faire découvrir le laser et ses applications au plus grand nombre. Et des expositions itinérantes ont été réalisées. Donc il y a des bus qui ont circulé et qui circulent encore en France. Et l'objectif étant d'aller montrer ce que c'est qu'un laser et quelles sont ses applications directement dans les lycées et dans les collèges. Et je pense que des chercheurs de l'ILA ont participé à la réalisation d'au moins une expérience qui est présente dans ces bus.
Dominique Derosier, merci. Antoine Matrillon à l'ILA, donc à l'espace culture, quelques points d'information pratiques?
Donc, on a bien développé l'exposition de la bougie au laser qui a lieu à l'espace culture jusqu'au mois de mi-décembre, le 15 décembre, donc du lundi au vendredi. Dans le cadre de la fête de la science, on a quelques autres manifestations, notamment la présentation de Sphère, qui est en fait le projet de l'Université de Lille, d'un parc virtuel des sciences et technologies en trois dimensions, dont la première version démontrable est maintenant disponible, et ceci sera visible à l'espace culture également demain et après-demain toute la journée. Encore une manifestation en dehors de l'espace culture mais sur le campus, c'est le parcours biodiversité. Je pense que vous avez parlé ici de toutes les initiatives qui sont prises par l'université pour valoriser l'environnement et la biodiversité de la cité scientifique. Des étudiants ont mis en place un parcours fléché pour informer les visiteurs sur ce que peut montrer notre campus dans ce domaine. Donc ici encore, c'est demain et après-demain, avec un point de rendez-vous à l'espace culture et après une balade sur le campus disponible. Et ce soir, vous êtes tous invités également à assister à une conférence sur quel avenir énergétique après le puits de pétrolier mondial, également à l'espace culture à 18h30.
Merci Antoine Matrillon, bonne journée.
Au revoir.
Mm-hmm.